Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
Depuis maintenant 2 semaines, on ne parle que du français, le déclin du français. Cette discussion qui est vraiment sur toutes les lèvres depuis que la députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos, qui témoignait, qui participait en fait au comité sur les langues officielles à Ottawa, a remis en question le déclin du français au Québec, en utilisant ses doigts là pour mettre une sorte de guillemets, et depuis aussi le reportage du Journal de Montréal. Donc, ma collègue Marie-Lise Mormina, qui est allée au centre-ville, et dans la moitié des commerces, elle a été abordée d'abord en anglais, et dans beaucoup de commerces, elle ne pouvait pas tout simplement être servie en anglais. Donc, beaucoup de discussions depuis quelques semaines, mais ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, André Pratt lance une bombe d'une certaine façon, parce que lui dit, ben écoutez, il faut relativiser tout ça, au risque d'être excommunié, il faut mettre beaucoup de bémols quand on parle du déclin du français au Québec. André Pratt, ben tout le monde le connaît, ancien journaliste, sénateur, maintenant directeur de la firme nationale de gestion d'enjeux Navigator. Bonjour Monsieur Pratt.
Bonjour Sophie.
D'ailleurs, Navigator, est-ce qu'il faut le prononcer à l'anglais? Est-ce que c'est Navigator ou Navigator?
Ça dépend. Si vous êtes francophone ou anglophone, vous le prononcez comme vous voulez. Ça se prononce dans les deux langues.
Monsieur Pratt, il y a beaucoup, je suis allée faire un petit tour sur les médias sociaux juste pour m'amuser, parce que vous savez que vous êtes très polarisant. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas digéré votre passage à la presse et votre proximité, disons, fédéraliste. Et il y a beaucoup de gens qui sont très fâchés que vous ayez écrit cette lettre dans le Journal de Montréal. Est-ce que ça vous fait un pli sur la bedaine ou vous vous en foutez complètement?
Non, je me fous pas du tout des réactions des gens. Au contraire, je lis ce que les gens disent et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout ce que j'écris. Mais maintenant, il faut bien comprendre ce que j'écris exactement. Dans le cas dont on parle, je dis très clairement, parce que j'en suis convaincu, que la langue française est fragile au Québec et qu'il va falloir toujours être vigilant puis prendre des mesures pour s'assurer que le français ait la place qui est la sienne comme langue officielle et langue majoritaire au Québec. Maintenant, entre dire ça et dire qu'il y a un déclin généralisé du français au Québec, ce que je dis dans mon texte ce matin, c'est quand on regarde les rapports de l'Office québécois de la langue française, qui mène régulièrement des enquêtes très rigoureuses, on voit que dans plusieurs domaines, il y a stabilité ou progrès. Par exemple, on parle beaucoup des cégeps ces temps-ci, on remarque qu'au cours des 30 dernières années, la proportion d'allophones qui décident de faire leur collégial en français a augmenté de façon considérable. Alors, c'est un gain, c'est un positif pour la langue française. Par contre, les mêmes études montrent que pour la langue d'accueil, qui a été l'objet de l'enquête récente du Journal de Montréal, effectivement, il y a une baisse. Et l'accueil se fait, en fait, la baisse se fait surtout au profit du fameux « bonjour, hi », c'est-à-dire de l'accueil bilingue. Alors, ça veut dire que, dans mon esprit, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut prendre des mesures pour faire en sorte que l'accueil se fasse davantage en français. Est-ce que ça prend une politique, une nouvelle loi 101, une politique générale extrêmement ambitieuse pour contrer ce qu'on appelle le déclin du français? Là, je suis moins certain. C'est tout ce que je dis.
Ouais. Mais en même temps, ce qu'on sent dans votre texte, c'est peut-être une volonté de minimiser les choses, parce que vous venez de nous le dire, il y a certains aspects pour lesquels il y a du progrès, mais il y a aussi certains aspects pour lesquels ça empire. Juste attirer votre attention, vous connaissez bien sûr le démographe Marc Termotte, parce qu'il avait en 2011 réalisé justement une très longue étude, 200 pages, là, à la demande de l'OQLF, et il faisait des prévisions quant à l'évolution de la situation linguistique à Montréal et dans le reste de la province. Ben, il a donné une entrevue il y a quelques jours en disant, écoutez, j'étais trop optimiste dans mes prévisions. J'aurais dû être beaucoup plus pessimiste parce que les chiffres sont terribles. La situation est bien pire que ce que j'avais prévu. Et c'est un spécialiste, c'est un démographe, et il tire la sonnette d'alarme, M. Termotte. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez à lui qui dit qu'il y a réellement déclin et que le déclin est pire que ce que lui avait prévu il y a 9 ans?
Ouais. J'ai beaucoup de respect pour M. Termotte, qui est un spécialiste, ce que je ne suis pas. Cependant, tous les spécialistes ne sont pas d'accord. Et là encore, le seul objet de mon texte était de dire, est-ce qu'on peut avoir cette discussion-là? Parce que les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur ces questions-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore cette discussion-là? Ou bien si, dès le moment où on pose une question, on est excommunié parce qu'on n'a pas le droit de relativiser ou de poser des questions ou de s'interroger. Pour ce qui est, par exemple, de l'île de Montréal ou de la région de Montréal, dépendant de ce qu'on prend comme cadre géographique, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, quand on regarde la langue maternelle, les francophones de langue maternelle diminuent en proportion dans la région de Montréal. Maintenant, il faut regarder pourquoi ça diminue. Est-ce que ça diminue au profit de l'anglais? En d'autres termes, est-ce que la communauté anglophone au Québec prend de l'expansion au déficit du français? Alors, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand on accueille des immigrants, les immigrants, ceux qui arrivent comme adultes, conservent à la maison comme leur langue maternelle, évidemment. C'est leurs enfants qui vont être francisés grâce à la loi 101. Alors, le français perd parce qu'on accueille des immigrants qui ont une langue maternelle qui n'est ni le français ni l'anglais et qui, évidemment, conservent leur langue maternelle à la maison. Maintenant, est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour, par exemple, attirer plus d'immigrants francophones? On en fait déjà pas mal. Peut-être, sans aucun doute, qu'il y a certaines mesures qu'on pourrait prendre. Le Québec, par exemple, a toujours sous-investi dans le domaine de l'intégration linguistique des immigrants.
Oui, la francisation. Oui.
Voilà, oui, oui. Exactement. On pourrait faire davantage à ce niveau-là.
Ben, pas on pourrait, on devrait, parce que c'est essentiel. Et vous avez tout à fait raison de dire que les gouvernements successifs n'ont pas investi autant qu'il le faudrait. Mon amie et collègue Tania Lompré a écrit tout un livre là-dessus, parce qu'elle-même est enseignante en francisation, et c'est aberrant de penser que on investisse pas plus que ça. Par contre, je reviens à votre lettre, Monsieur Pratt. Vous citez la ministre aux langues officielles, Mélanie Joly, qui elle-même a soutenu, on ne peut pas nier présentement qu'il y a un recul du français à Montréal et au pays, les statistiques le démontrent. Vous, vous dites que Mélanie Joly, vous remettez en question les statistiques de Mélanie Joly, vous remettez en question le fait qu'elle dit qu'il y a bel et bien un déclin. Donc, vous connaissez mieux les statistiques que la ministre aux langues officielles.
On discute, hein?
On a oui, on parle. Au Québec, ben oui, parle. André. Bon, ben, voilà. Ben oui, ça fait des années qu'on se connaît, regardez, toi et moi. Ben oui.
Voilà. Alors, si vous regardez les nombreuses statistiques comprises dans les études de l'Office québécois de la langue française, je répète que plusieurs de ces statistiques-là montrent qu'il n'y a pas déclin. Par contre, dans certains secteurs, il y a déclin. Alors, tout ce que je dis, c'est que toutes les statistiques ne sont pas unanimes. Maintenant, Mme Joly a dit dans sa déclaration quelque chose de très précis. Hein. Elle a dit qu'il y a déclin à Montréal. Donc, elle parle de la situation à Montréal et non pas au Québec dans son ensemble. Et elle dit « au pays ». Et ça, il n'y a aucun doute que dans l'ensemble du Canada, le français est en recul. Dans les provinces majoritairement anglaises, le français est en recul depuis de nombreuses années à cause du phénomène de l'assimilation. Et il y a certainement des mesures que le gouvernement du Canada peut prendre, pour notamment au niveau de la modernisation de la langue officielle, pour essayer de freiner davantage cette assimilation des Canadiens français dans les autres provinces du Canada. Et c'est le rôle de Mme Joly, beaucoup plus, à mon avis, que de venir se mêler des questions québécoises. Mais en tout cas, on verra ce qu'elle pourra faire avec la modernisation de des langues officielles.
Oui, mais on a l'impression quand même, Monsieur Pratt, je reviens avec ça, on a l'impression que vous minimisez ou que vous relativisez. Je veux dire, c'est clair quand même. Je sais pas, peut-être que c'est... Vous habitez où en ce moment? Est-ce que vous habitez à Montréal?
J'habite à Saint-Lambert.
Bon, ben, j'ai allé faire un tour à Laval, au Carrefour Laval, allé faire un tour sur Sainte-Catherine, au coin de Peel et Sainte-Catherine, ou encore mieux, à Saint-Lambert, faites-vous venir une pizza, puis je veux pas donner les marques, les différentes marques de pizza, et vous allez voir la bonne chance si vous arrivez à trouver un livreur qui est capable de vous dire, ne serait-ce que bonjour, merci, au revoir. Et vous pouvez pas nier qu'il y a une anglicisation flagrante du centre-ville de Montréal et même, je dirais, de toute la couronne autour de Montréal, M. Pratt.
Ben, ça me fait de la peine de vous dire ça, mais oui, quand vous me parlez d'anglicisation flagrante du centre-ville, je ne suis pas d'accord. Si vous me parlez de la langue d'accueil dans les commerces, si vous me parlez de la langue d'accueil dans les commerces, ce dont on parle depuis plusieurs semaines, et c'est indéniable, je l'ai dit dans mon texte, et les chiffres de l'Office de la langue française le montrent, il y a un recul au profit de l'accueil bilingue. Maintenant, si vous me parlez d'anglicisation massive de Montréal, les chiffres ne montrent pas ça. Maintenant, vous pouvez me citer toutes sortes d'anecdotes. Prenons l'affichage. Tiens, il y a quelques années, on parlait beaucoup, beaucoup de l'affichage. Hein? C'était la question, l'affichage. Mm-hmm. Or, encore une fois, la loi a été resserrée. D'abord, les règlements ont été resserrés. Maintenant, les compagnies, même les multinationales qui s'appellent, je ne sais pas moi, Last Drop, là, un bistrot de café, doit indiquer des mots français dans sa raison sociale absolument. La loi a été resserrée. Et les données de l'Office de la langue française montrent que la loi est très généralement respectée. Alors, maintenant, on ne parle plus d'affichage, on parle de l'accueil. Très bien. Alors, soyons plus vigilants au niveau de l'accueil. Maintenant, si vous me dites qu'il y a une acquisition généralisée, je ne suis pas d'accord, puis les chiffres d'Office de la langue française ne montrent pas ça.
Oui, mais parlons de la langue.
Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je nie la fragilité du français. Et c'est là qu'il faut y avoir, on peut avoir une discussion. On peut discuter de ces questions-là entre Québécois, quelle que soit notre langue maternelle, etc. Discuter de cette question-là sans tout de suite qu'on nous dise « Ah, ben vous n'êtes pas vraiment Québécois ou vous niez la réalité ou tout ça. »
Non, non mais qui dit ça? Monsieur Pratt, qui dans le débat a traité quelqu'un d'autre de pas un vrai Québécois? Qui a fait ça?
Dans les médias sociaux, on voit ça très souvent.
Oui, mais les médias sociaux.
Les médias sociaux, vous les avez cités tantôt. Regardez ce qui est arrivé à la députée Lambropoulos. Moi, personnellement, je trouve ça déplorable. Hein? Elle a le droit de dire, de mettre déclin, entre guillemets. Elle pense qu'il n'y a pas déclin. C'est normal, c'est correct. On est dans une société démocratique. La façon de lui répondre, comme l'écrivait votre collègue Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal il y a quelques jours, la façon de lui répondre, c'est en apportant des faits. Pas à l'excommuniant parce qu'elle n'a pas le droit de dire ça. Dans une démocratie, on a le droit de dire le contraire de ce que la majorité pense. Je suis très conscient que la majorité des Québécois pensent que le français est en recul. C'est correct, ils ont le droit de penser ça. J'ai le droit d'apporter des chiffres qui disent que le recul, si recul il y a, est peut-être pas aussi épouvantable que ce que tous les gens disent. Le texte que j'écris, qui vous a de toute évidence un peu heurté, c'est un texte plein de nuances et qui apporte.
Ben, tout à fait, mais je suis d'accord.
C'est un débat démocratique.
Oui, ben tout à fait. Je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure à propos des médias sociaux. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis allée faire un petit tour pour m'amuser, juste pour voir, parce que vous le savez, là, il y a des gens, ils voient juste votre nom écrit noir sur blanc, puis ils en font du psoriasis, là, ils ont une attaque d'urticaire. C'est juste pour ça que je voulais vous taquiner là-dessus, André.
Mais ce que je veux dire... Cette façon-là de voir les choses, à mon avis, avec tout respect pour les gens qui pensent ça, n'est pas correct. Ce dont on parlait tantôt sur les investissements pour la francisation des immigrants. Quand j'étais à la presse, j'ai écrit plusieurs textes là-dessus, très documentés, pour montrer que le Québec, quel que soit le gouvernement, libéraux, péquistes et maintenant caquistes, sous-investissait dans le domaine de l'accueil des immigrants. On accueille plus d'immigrants et on investit à peine plus dans la francisation des immigrants. Il y a des attentes incroyables pour les immigrants qui veulent prendre des cours de français. Je trouve que pour une société francophone minoritaire, c'est inadmissible. J'ai écrit ça plusieurs fois dans la presse.
Oui, mais les gens oublient ça.
Les gens oublient les nuances, etc. Puis ils disent, Pratt, c'est un fédéraliste. Et puis on sait bien ce qu'il pense, puis il tient pas aux Français.
Mais c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui, André. Justement, pour que vous ayez... Et c'est pour ça que je trouve très intéressant que, justement, votre texte ait été publié, non pas dans la presse, qui aurait été facile, évident et attendu, mais qu'il soit publié dans le Journal de Montréal, justement, qui est peut-être pas votre public habituel, mais que, justement, les gens aient l'occasion, dans les pages du journal, d'entendre des opinions dissidentes, des opinions différentes. Mais vous avez tout à fait raison aussi de souligner mon collègue Antoine Robitaille, qui a écrit un texte où il disait, Madame Lambropoulos, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de se discuter là-dessus. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que vous pensez de Chelsea Craig, qui est donc la directrice pour le Parti libéral du Canada au Québec, qui a écrit plusieurs tweets où elle disait que la loi 101 était une loi oppressive. Moi qui ai sorti cette histoire-là la semaine dernière sur les ondes de Cube. Donc, vous vous portez à la défense de Mme Lambropoulos. Iriez-vous jusqu'à vous porter à la défense de Mme Craig?
Qu'est-ce que vous appelez porter à la défense? Elle a le droit.
Est-ce que vous trouvez qu'elle a raison, qu'elle a le droit de... Non.
Elle a le droit de le dire, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Mais je pense que dans une société démocratique, il y a plein de choses qu'on a le droit de dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Alors, elle a le droit de le dire. Et puis, je veux dire, si c'est sa position, c'est sa position. Il s'agit de répondre à sa position, non pas en disant qu'elle n'a pas le droit ou de lui dire qu'elle ne devrait plus être à occuper le poste qu'elle occupe, mais simplement de dire qu'elle a tort. Moi, je pense pas que la loi 101 est une loi oppressive. C'est une
mais
loi
en même
qui
temps,
limite certains droits, oui, mais c'est justifié compte tenu de la situation du français au Québec.
Mais en même temps, je pense que personne réclame que Mme Craig perde son emploi, mais il reste qu'elle est représentante d'un parti où Justin Trudeau, dans son discours du trône, a dit l'importance de protéger le français qui est en effet fragile au Québec, et elle est en porte-à-faux, en fait, avec même Mélanie Joly, qui, elle, dit justement à quel point il faut protéger le français au Québec parce qu'il est plus que fragilisé, il est menacé. Donc, c'est pas juste quelqu'un, un individu lambda, sur sa page Twitter qui écrit que la loi 101 est oppressive, c'est quelqu'un qui est, en fait, qui dévie complètement de la ligne de parti, si on veut voir ça comme ça.
Ben, écoutez, si vous voulez, on peut se parler 30 secondes du Parti libéral du Canada. Moi, personnellement, je trouve qu'il joue un jeu très dangereux.
Allez-y.
Pour eux, parce que si tu veux faire de la surenchère sur la question linguistique au Québec, mais que tu es un parti fédéral, qui a des membres donc de partout au pays, tu risques de te retrouver dans une situation difficile à un moment donné où tu vas être piégé par une certaine incohérence. Et c'est ce qui est en train de se passer. On sait pertinemment bien qu'il y a bon nombre de membres du Parti libéral du Canada, comme du Parti conservateur d'ailleurs, notamment au Canada anglais, qui pensent que la loi 101 est oppressive. Je veux dire, alors, la position que défend Mélanie Joly aujourd'hui, bravo, je veux dire, je reconnais que c'est bien que, comme la Cour suprême l'a fait il y a plusieurs années, le parti qui gouverne le Canada reconnaît la vulnérabilité particulière de la langue française au Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Par exemple, est-ce qu'ils devraient soumettre les entreprises sous juridiction fédérale à la loi 101? Bon, ben, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais moi, je pense que ce serait une erreur. Je sais que tous les partis fédéraux proposent ça. Le Parti libéral, lui, ne l'a pas encore proposé, mais on sent que ça lui tente beaucoup. Moi, je pense que ça serait une erreur. Parce que certaines de ces entreprises-là sont actuellement sous le chapeau de la loi sur les langues officielles du Canada. Et si on leur impose la loi 101, le risque est grand que d'autres provinces disent, bon, ben, OK, d'abord, nous autres, ces entreprises-là, on va les soumettre à la loi de l'anglais seulement. Et ça va être la fin de la loi des langues officielles. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite. La loi 101 a une utilité très grande. Elle joue un rôle très important. Maintenant, jusqu'où on va, il faut faire très attention à ça. La même chose pour l'application de la loi au cégep. Alors, moi, je pense que le Parti libéral du Canada joue un rôle, un jeu dangereux, parce que je pense qu'il n'est pas en cohérence avec ce que beaucoup de ses propres membres pensent au Québec, mais surtout à l'extérieur du Québec.
Et quand ça me paraît une évidence. On va se quitter là-dessus, André. Je suis désolée de vous interrompre, mais on reprendra cette discussion-là, André, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Entre personnes polarisantes, je pense qu'on peut bien s'entendre. Entre personnes qui provoquent des crises urticaires sur les réseaux sociaux, on peut bien s'entendre. André, merci beaucoup, puis j'encourage tout le monde à aller lire votre lettre, donc qui est publiée dans la section Faites la différence au Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule Le déclin du français au Québec. Déclin, évidemment, entre guillemets. Merci beaucoup, André.
Merci, Sophie. Bonjour.
André Pratt, donc ancien journaliste et sénateur, il est maintenant directeur de la firme nationale de gestion d'enjeux, Navigator.